Alors, nous venons de parler des critères. Et j'ai encore quelques commentaires à faire là-dessus avant qu'on passe à autre chose. Vous entamez de temps en temps des projets, n'est-ce pas? Ce que vous appelez ces projets va avoir largement à faire si oui ou non vous allez attirer les gens ou vous allez réussir. Je vous donne un exemple. Je suis très active dans ma communauté. Je fais partie de ma synagogue, je fais beaucoup de comités, je travaille aussi sur les conseils d'administration, sur les organismes sociaux dans ma région. Et il y a quelques années, j'ai été sur le conseil de direction du YMCA, qui est quand même une association de bien-être physique. Ouais, c'est pas la chanson, non, mais du YMCA. Alors que ça fait ça, ben oui, vous avez eu tous les mêmes images.
Tu as tout vu, hein?
Oui, voilà. Mais c'est pas ça. Et bon, c'est des associations d'organisation de développement de jeunesse, de fitness physique, d'action sociale, de garderie d'enfants, toutes sortes de choses. Et dans ma ville à Burlington, il y avait une femme qui était que je connaissais bien. C'était la belle-sœur d'une de mes grandes copines, parce que je vivais dans une ville pas trop grande, donc tout le monde se connaît. Eh bien, elle était directrice exécutive de la branche à Burlington où je vis. Mais c'était une poste à temps partiel. Elle était obligée de remplir sa journée de travail avec d'autres activités parce que on lui avait dit, il y avait plusieurs branches, on lui avait dit qu'à Burlington, il n'y a pas de poste de directrice à temps plein. Eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, elle en a marre et la ville lui recrute pour vraiment un poste de cadre dirigeant au sein du département de récréation de la ville. Mine de rien, il y a un mélange de personnel entre toutes les branches et tout d'un coup, il y a un monsieur qui remplit un poste à temps plein de directeur exécutif de la branche à Burlington. Alors vous voyez, j'étais sur le conseil de direction, j'ai piqué une crise pas possible. J'ai commencé qu'on a formé cette personne pendant 20 ans de sa carrière et c'était la femme la plus haut placée dans toute l'organisation et qu'elle a dû partir parce qu'il n'y avait pas de poste pour elle et une fois qu'elle est partie, mine de rien, il y a un poste à temps plein. Alors j'ai piqué une crise, j'étais jeune et naïf dans le temps et après ça je me suis trouvée chargée d'un comité d'enquête pour savoir est-ce que oui ou non on était un employeur qui travaillait dans les normes de la justesse d'emploi. Et dans le temps, dans l'Ontario, dans ma province, on venait de parler de nouvelles législations pour l'égalité de l'emploi. Et on visait quatre groupes désavantagés. Les femmes, les personnes de couleur, les indigènes et les handicapés. Et on était sur le point de, le gouvernement était sur le point d'introduire la législation en faveur de ces quatre groupes défavorisés. Mais on avait décidé, suite au fait que moi j'ai piqué une crise, et très fort d'ailleurs, ça m'apprendrait, parce que j'ai été tapée avec beaucoup de travail par la suite, c'est pour ça que je me dis, j'étais jeune et naïve dans le temps, j'étais chargée d'un comité pour savoir si oui ou non on était un employeur égalité. Alors, il fallait qu'on se crée un mandat et qu'on se donne un nom. La première suggestion pour le nom, c'était le comité d'égalité d'emploi. Alors, j'ai dit non, on peut pas faire ça parce que déjà, dans toute l'ambiance de l'emploi, tous les hommes disaient, oh, c'est fini, ma carrière finie, je suis un homme blanc et donc j'ai pas de chance. Bien sûr, c'est la réaction normale parce que maintenant on va favoriser les femmes, les gens de couleur, des aborigènes et puis des handicapés. Et moi, j'ai pas de chance, je suis un homme blanc. Ça y est, c'est fini ma carrière. Et j'ai dit, vous voyez, déjà le critère était pris avec un aperçu négatif. Donc j'ai dit, il faudrait qu'on trouve un nom pour lequel tout le monde a un aperçu positif. Donc on a appelé en anglais, on a dit le Fairness in Employment Committee, la justesse dans l'emploi. Et on a pris un mot de la jeunesse de tout le monde, parce que qu'est-ce qu'un enfant veut pas? Il veut pas que c'est pas juste. Donc on a pris exactement ce mot-là. Et on a fait une enquête sur nos employés dans toute la région, sur les différentes pratiques et politiques d'emploi. Et on a eu un taux de participation énorme parce qu'on a choisi le bon mot. C'est comme ça que c'est important de choisir le bon critère. Si on avait utilisé le jargon du gouvernement, les trois quarts des hommes blancs dans notre association n'auraient pas participé. Donc, juste pour vous donner un exemple de combien c'est très important. Dans les campagnes politiques, c'est très important de choisir les mots justes et non pas les mots qui sont déjà associés à des choses, à d'autres choses. Donc, ça fait partie un peu de votre recherche. Est-ce qu'il y a des noms qui sont déjà pris? Moi, je prends beaucoup de temps à choisir les titres de mes produits et de mes programmes. Je passe beaucoup de temps à faire ça. Pour avoir les associations conscientes et inconscientes justes, pour que ça attire exactement les personnes qui ont besoin de ça, qui vont pouvoir en profiter de ça. Et pour les faire rigoler aussi, parce que ça, c'est un besoin personnel que je peux pas éviter. Bon, voyons. Voilà. Alors, on fait des titres un peu accrocheurs. Par exemple, j'ai un newsletter, un bulletin irrégulier que je produis. Oui, c'est mon engagement, ça vient n'importe quand. C'est un très grand engagement. Ça vient quand ça me chante. Et déjà, si ça vous tente, vous...
Abonné irrégulier.
Ben oui. Là, je vous ai mis, ça c'est pour les ressources. Après, pendant le cours, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous cochez, vous me donnez votre courriel, on vous envoie ça. Alors, le dernier bulletin que j'ai envoyé, c'était en anglais. Pour l'instant, j'ai pas encore le bulletin en français, mais mon anglais est clair. Mais de petit à petit, je vais faire plus de choses en français. Et le titre, c'était « Angelina Jolie rencontre Shelley ». Et c'est vrai, c'est ma sœur qui m'a montré un truc dans une revue pour femmes américaines où il y avait une photo d'Angelina Jolie et une description, une analyse de sa signature, de son écriture. Et tout de suite en dessous, il y a mon livre et mon nom marqué. Et ça a l'air, si tu regardes pas de près, qu'elle a lu mon livre. Alors, il y a ma sœur, une de mes sœurs adoptives qui me crie aux oreilles, « Shelley, Angelina Jolie a lu ton livre !» Alors, j'ai scanné ça, j'ai mis ça dans mon bulletin irrégulier parce que ça m'amusait. Bon, voilà. Et j'aurai des thèmes sur la communication et sur l'influence quand ça me chante.
Oui. Hein? Est-ce que Brad Pitt a
lu? Non, pas encore. Il faudrait qu'il le lise. Ou bien son ex-femme.
Oui.
Eh bien. Donc, de temps en temps, il y a des éléments pratiques. Il y avait un dernier sur mon site web, d'ailleurs, tu peux cliquer sur les anciens numéros. J'en ai un. Comment répondre? Que faut-il faire une fois qu'on a fait un faux pas? Alors ça, c'est un thème. Tu dis quelque chose et au moment où ça sort de ta bouche, tu vois, soit par tes tripes personnelles ou par la réaction de l'autre, que c'est pas ça que t'aurais dû dire. Alors, que faire après ça? Quand l'éditeur intellectuel est en vacances, que fait-on?
J'ai vécu un grand moment comme ça. Ouais. Dans mes
souvenirs. Marche arrière, voilà. Oui. Voilà. Alors, le pire que j'ai fait récemment, le pire que j'ai fait, j'étais à Boston, j'ai travaillé avec un groupe de marketing pour un grand éditeur. Et ce groupe de marketing vendait des textes universitaires à des professeurs de maths et de sciences. Et nous sommes en train de travailler sur les différents schémas du profil lab. À Boston. Et ils viennent de partout, ce groupe de marketing, de partout des États-Unis. Et on est en train de travailler sur le profil des vendeurs de livres et le profil des professeurs. Et tout le monde travaille correctement, on s'amuse, on travaille très bien. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a perdu le fil. Et là, il dit, mais je vois pas pourquoi on passe tout notre temps à faire ça alors qu'on sait très bien que c'est que de la logique, que ce dont les professeurs ont besoin pour être convaincus de quoi que ce soit. Alors, la fonction d'éditeur était en vacances dans ma tête. Je ne sais pas où il était parti. Et j'ai dit, si c'était vrai que les gens sont convaincus par la logique, vous n'aurez pas le président que vous avez actuellement. Alors, je me suis rendu compte que je suis à Boston, pas à Toronto, par exemple. Et alors, j'ai dit, oh là. Alors, je me suis tournée vers moi, le moi invisible à mes côtés. J'ai dit, mais voyons, Shelley. Tu vois ce que tu viens de dire, c'est une opinion politique qui n'a pas de place ici. Alors, je me suis dans la peau de Shelley, j'ai dit oui, je sais pas où c'est sorti, mais je regarde infiniment. Je me suis remis de côté, j'ai dit, tu vois ce qui se passe là, maintenant t'as offensé au moins la moitié de ton groupe là. Alors, elle a dit, je m'en excuse, j'aurais pas dû dire ça, même si je le pensais, parce que c'est pas à moi de faire des commentaires comme étrangère sur les politiques d'un autre pays. Et j'ai dit, et tu fais tes excuses en plus. Ah oui. Excusez-moi tout le monde. Alors ça, c'était ma solution parce que je ne sais pas ce qui m'a pris par la tête, mais c'est sorti tout seul. Avec une élégance et ferme. Et, vraiment, j'ai jamais été aussi élégante de parole de ma vie. Mais c'était pas ça qu'il a fallu dire.
Et comment ils ont réagi?
Mais les gens qui habitent à Boston, en Californie, ont applaudi. Et les gens qui viennent du milieu et du sud ont été choqués. Donc j'ai failli perdre toute ma crédibilité avec tout le monde. Alors il a fallu que j'engueule celle-là. Tu vois, ce qu'on dit, the evil twin, le jumeau méchant. À côté, qui a sorti ça, parce que c'est sûrement pas moi. Donc c'était moi. Ma jumelle méchante, c'est elle qui a sorti ça.
Et comment les participants?
On a ri, puis on a passé à autre chose. Bon, on va pas passer 10 minutes là-dessus. Mais ça, c'est une des stratégies. L'autre stratégie, c'est que tu crées une diversion et tu t'en vas.
La fuite.
Ça, c'est ma préférée, oui. Oui, tu fais la fugue complètement. Alors, tu dis, écoute, Christine, tu vois ce qui se passe derrière. C'est ce que tu fais. C'est le plus efficace.
Je voudrais comprendre, créer une diversion quand on fait une gaffe pareille.
Bah oui, tu crées une diversion et tu t'en vas, mais vite. C'est pas la peine de hésiter. À ce moment-là, c'est proactif. Bon.
Et tu reviens au bout de combien de temps?
Plus tard. Pour être spécifique.
Dans un certain temps.
Dans un certain temps. Voilà.
C'est pas facile à faire quand même aussi
de partir.
Non, non.
Partir? Non. C'est pour ça, il faut que tu crées une diversion.
Partir pour revenir, c'est ça le problème.
Et d'ailleurs, si tu ne le prends pas trop au sérieux, les autres ne prennent pas trop au sérieux non plus. N'est-ce pas? Ok. Eh bien, on va passer à autre chose. Là, on veut savoir qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va t'obliger à faire quelque chose et qu'est-ce qui va t'empêcher de faire quelque chose. Ça vous intéresse de savoir ça? Très bien. Vous allez trouver un partenaire différent. J'aimerais vous encourager à chaque exercice de trouver un autre partenaire. Parce qu'en fait, notre cours, c'est sur les différences qu'on a les uns entre les autres, les distinctions, pour aiguiser sa flexibilité. Et que si vous travaillez tout le temps avec les mêmes personnes, vous allez limiter ce que vous pouvez apprendre. Donc, pour pas limiter ce que vous allez apprendre, je suggère de prendre d'autres partenaires. Et cette fois-ci, on va poser une question différente. Voici la question. Pourquoi ce critère est-il important pour toi dans le travail, mettons? Alors, vous savez que mon critère principal, c'est intéressant. Alors, pourquoi est-il important que ça soit intéressant dans ton travail? Ça, c'est une question que tu me poseras à moi. Quel est un autre critère que vous avez pour le travail? Christine, pour toi, qu'est-ce que c'est un critère?
Le critère, ça va être la...
Parce qu'il y en a plusieurs.
Ouais. La diversité.
La diversité. Alors, la question, ce serait, Christine, pourquoi la diversité est-il important pour toi dans ton travail? Mettons, on est dans le travail toujours.
Alors, la diversité est importante pour moi dans mon travail parce que ça m'empêche de m'ennuyer.
Ok, etc. Alors, la manière qu'on va le faire, c'est qu'on va faire un peu comme la recherche en marketing. On va poser la même question 3 fois. J'aimerais démontrer. Première question, c'est pourquoi critère est-il important pour toi dans ton travail? D'accord? Alors, si je pose cette question à une personne, savez-vous ce qu'elle va me dire? Elle va dire la chose suivante. Bla, 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 bla. C'est vrai? Alors, vous écrivez de mot à mot le bla, 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 bla. Après ça, vous allez émettre le bruit de la curiosité. Vous savez ce que c'est? Le bruit de la curiosité, c'est, ça vous arrive jamais que quelqu'un parle longtemps et que vous venez un peu impatient, un peu, vous portez un peu des jugements sur la personne lorsqu'elle parle trop. Allez. Si ça, jamais ça vous arrive, vous n'avez qu'à émettre le bruit de la curiosité et ça vous met dans un état de curiosité et ça encourage l'autre à continuer dans un sens plus utile. Alors, le bruit de la curiosité est le suivant. Oh! C'est pas la même chose que ça. Oh! Ça, c'est le bruit de la mauvaise nouvelle. Donc, on pratique ensemble? Oh, c'est ça. Donc vous dites le bruit de la curiosité. Vous... Oh. Ensuite, vous posez la deuxième question qui est le même mais différent. Pourquoi cela est-il important pour toi dans le travail? Et le cela fait référence à quoi? Fait référence à quoi le cela? Ce qui vient d'être dit. Et donc c'est une raccourci. Tu n'as pas besoin de redire tout ce que la personne dit. C'est un raccourci. Raccourci. Alors ensuite la personne va vous sortir quoi? Bon, vous dites, oh, pourquoi cela est-il important pour toi dans le travail? Et la personne vous dit, bla 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 bla, vous écrivez de mot à mot. Et une dernière fois, vous allez sortir le bruit de la curiosité. Oh, oh, pourquoi cela est-il important dans le travail? Donc, votre tâche, c'est d'écrire les trois bla 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 pour ton partenaire, et quand on revient, on va décodifier ce blablabla pour déterminer qu'est-ce qui va faire qu'une personne soit motivée pour faire quelque chose ou qu'est-ce qui va l'empêcher de faire quelque chose. Et donc, vous le faites à deux partenaires, je fais mon tour, tu fais l'autre, le tour de l'autre, d'accord? 5 minutes chacun. Merci.
Le même.
C'est le même. Eh bien, vous venez de poser la question à votre partenaire. Pourquoi un critère est-il important dans le travail? Il est sûr et certain que, à certains moments, et ça paraissait un peu ridicule de poser la question une troisième fois, n'est-ce pas?
Non.
Si jamais ça arrive que la personne se répète ou qu'il se fâche, c'est le moment d'arrêter. C'est tout, voilà. Alors, vous avez sûrement remarqué ces moments-là dans vos vies. Oui. Ah oui, c'est le moment de stopper, là. Et ça veut dire que vous êtes arrivé en fin de ligne, c'est tout. Mais puisqu'à ce moment-là, vous ne savez pas ce qu'on recherche, je vous ai demandé de faire ça 3 fois au cas où. Mais je vais vous expliquer pourquoi après. Je vous avais dit qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui va faire une personne, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne soit obligée de faire quelque chose, ou qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Et nous appelons ça la direction de la motivation, l'orientation de la motivation. J'aimerais vous donner un exemple visuel, si vous pouvez me regarder. Parce qu'il y a 2 schémas. C'est l'orientation dans le mouvement qu'on veut. Alors, est-ce que quelqu'un est orienté vers ce qu'elle veut, ou est-ce qu'elle est plutôt orientée pour s'éloigner de ce qu'elle ne veut pas? Donc, est-ce qu'elle va vers quelque chose ou est-ce qu'elle s'éloigne de quelque chose? Et c'est caché dans son langage. Et c'est ça qu'on va voir. Si vous tournez à la page 11 dans votre dossier, on va voir ce que ça donne. Et c'est la question de direction ou d'orientation. On utilise les 2 mots. La direction de mouvement, l'orientation de mouvement. Soit quelqu'un s'avance vers un objectif, et encore là, ça n'a rien à voir avec la personnalité. C'est situationnel. C'est par contexte. Donc parfois, on s'avance vers un objectif, parfois on s'éloigne de ce qu'on ne veut pas. Et ça a des conséquences dans ce qui va nous motiver et ce qu'on doit faire pour être motivé, et etc. La première, c'est le schéma d'aller vers. Et là, j'aimerais le décrire en termes globaux. Quelqu'un qui a un schéma aller vers, mettons, au travail, pour être motivé, a besoin d'avoir un objectif. Dans l'absence d'un objectif, elle ne sait pas quoi faire, elle tourne en rond, elle n'est vraiment pas motivée. Justement, pour être motivé, il faut avoir un objectif pour ces personnes-là. La manière qu'elle va pour travailler, c'est qu'elle travaille vers l'objectif. Donc, elle garde l'objectif en tête et elle fait des pas vers l'objectif, étape par étape, peut-être. Et du coup, puisqu'elle a toujours l'objectif en tête, elle sera plus apte à gérer les priorités. Une chose qu'elle ne saurait pas, qui ne serait pas vraiment une compétence de quelqu'un qui va vers, c'est qu'elle ne va pas être en mesure nécessairement de prédire ce qui peut aller mal. Donc, elle ne va pas voir à l'avance des obstacles quand elle va vers, quand une personne va vers. L'autre schéma s'appelle... voici un exemple. C'est un chien qui est très vert. Alors, vous regardez l'image, c'est le chien qui tire son maître à travers l'arbre pour attraper l'écureuil. Et le chien, il dit, vous voyez, on a failli avoir cet écureuil-là. Mais il n'a pas vu l'obstacle de l'arbre. Ça, c'est un exemple d'un chien très aller vert. Aller vert. Ça, c'est le nom du schéma, c'est aller vert. OK? Et bon, l'autre schéma s'appelle s'éloigner. C'est lorsqu'on s'éloigne de ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que que pour être motivé, on a besoin soit de réparer ou de prévenir ou de guérir quelque chose. C'est-à-dire, on s'éloigne d'un problème quelconque. S'il n'y a pas quelque chose pour laquelle on peut s'éloigner, on n'est pas motivé. Je vais vous donner quelques exemples concrets de ça. Et donc, ce sont des experts dans ce qu'on appelle en anglais le troubleshooting. C'est des gens qu'on va parachuter dans un endroit pour réparer ce qui ne va pas. Un exemple concret, c'est combien d'entre vous sont capables de voir les fautes dans un texte quand vous lisez un texte, comme si les fautes sautaient de la page ou de l'écran. Alors, vous avez un schéma éloigneur dans la lecture. C'est pas la peine de donner un texte à corriger à quelqu'un qui va vers, parce qu'il va dire ça a l'air correct, parce qu'il va pas voir des fautes comme si ça saute aux yeux, comme si ça sautait aux yeux. Alors que quand tu es dans un mode éloigneur, tu vois ce qui ne va pas.
Alors que quand j'écris, je fais des fautes.
Quand tu écris, tu fais des fautes, est-ce que tu les vois les fautes?
Je les vois que quand je relis.
Voilà, alors tu as une stratégie à double temps. Donc tu es dans un mode aller vers pour la création d'un texte et pour la correction de texte, tu changes de schéma pour voir ce qui ne va pas avec le texte. Si tu essaies de créer et de corriger en même temps, c'est très difficile parce qu'on n'arrive pas à être très créateur alors qu'on voit ce qui ne va pas. C'est pour ça que dans les brainstorming, par exemple, on demande est-ce que les gens séparent ces phases-là, par exemple. Ok, alors, comment identifier vos textes? Parce que là, vous venez d'écrire les réponses à des questions, à la question pour ton partenaire. Tournez à la page 12, on va voir comment on fait pour décortiquer et décodifier ce que vous avez écrit. Alors la question c'était pourquoi cela, pourquoi ce critère est-il important dans ton travail? Et là la raison pour laquelle on demandait trois fois, c'est que souvent les gens avec une certaine formation, avec une certaine culture, ont tendance à parler avec une structure linguistique aller vers, même si c'est pas leur schéma. Par exemple, les gens ayant une formation en PNL ont tendance à tout formuler en titre d'objectif, même si ce n'est pas le schéma. Donc, c'est, aux États-Unis, c'est quand même une culture très aller vers, très objectif. Et donc, du coup, les gens ont tendance à dire la première chose qui est culturellement inculquée. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé les questions à trois niveaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compte. On ne sait pas si c'est le premier ou le dernier réponse qui est plus porteur, on va compter les réponses. Et c'est comme ceci. Chaque fois que la personne parle de ce qu'elle veut, ce qu'elle va obtenir, ce qu'elle veut réaliser, ce qu'elle veut avoir, tu lui donnes un A pour aller vers, ou un V, mettons, pour aller vers. V pour vers. À chaque fois qu'elle parle des situations qu'elle veut éviter ou résoudre et ce qu'elle ne veut pas, là, vous marquez E pour éloigner. D'accord? Alors, prenez quelques minutes avec votre partenaire, 2-3 minutes chacun. D'abord, décortiquez une réponse et à la deuxième, on va voir les implications de ça. Eh bien, y a-t-il des questions sur comment décodifier certaines phrases? Est-ce qu'on peut reprendre l'exemple? C'est OK avec toi? Tu peux nous lire un des exemples de Nathalie?
Alors, donc, Nathalie, son critère, c'était être utile.
Okay.
Dans le travail, donc elle a commencé par dire j'ai expérimenté dans ma vie précédente, tout ce que je faisais était arrêté et il y a eu d'autres choses, j'ai pas eu le temps de marquer et je n'en voyais pas l'utilité.
Je n'en voyais pas l'utilité, c'est aller vers ou éloigner?
Éloigné.
C'est ça, c'est dans la formulation. Ce n'était pas utile, vous voyez, elle s'éloigne de la manque de, d'utilité, voyez-vous. Y a-t-il d'autres questions?
Ouais, on a hésité sur se remettre en question.
Ok, bah tiens, t'es pas le seul. Alors, c'était quoi la phrase exacte?
Non, c'était juste, la motivation, c'est, enfin, le critère, c'était la découverte.
Ok.
On disait sur la première question, c'était pas une phrase complète, c'était juste se remettre en question. C'est se remettre en question. Enfin, ça me permet de me remettre en question.
Qui a dit ça? C'était toi? Est-ce que c'est ok qu'on en parle?
Oui.
Ok. Laetitia, se remettre en question, c'était quelque chose que tu veux ou quelque chose que tu ne veux pas?
Quelque chose que je veux.
Alors, c'est aller vers.
Mais c'est ambigu comme ce terme-là.
Ah oui, il y a plusieurs phrases qui pourraient être ambiguës. Justement, par exemple, qu'est-ce que tu veux? Je veux la liberté.
Oui, parce que c'était...
Est-ce que c'est la liberté pour ou la liberté de? Ah, ok, mais là, c'est pour ça qu'il faut écouter jusqu'au bout. Voilà, justement. Et là, aussi, à ce moment, il ne faut pas interpréter. faut écouter littéralement. Est-ce que la personne s'éloigne de quelque chose ou est-ce qu'elle va vers ce qu'elle veut? Et c'est tout ce que vous avez à faire. Et bien sûr, on utilise notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique. Vous devinez, parce qu'après, je vais vous montrer, une fois qu'on a plusieurs schémas, je vais vous montrer comment tester. Mais vous savez, tout ça, c'est suivant le contexte. Et que vous avez différents schémas suivant le contexte. Par exemple, pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Parce qu'il y avait un autre qui vous attirait et que vous allez vers le deuxième? Ou bien parce que tu n'en pouvais plus et il fallait arrêter tout de suite?
Troisième voie, parce qu'on m'a mis dehors. Ben
oui. Dans ce cas-là, ce n'est pas vous qui avez quitté. Voilà. Alors, il y a deux types d'étudiants. Alors, revenez en arrière, ou pour ceux qui sont étudiants actuellement, il y a deux types d'étudiants. Il y a les étudiants que lorsqu'ils ont un travail à remettre, par exemple, ils disent, OK, c'est le 25 janvier, il est dû, que je dois le remettre le 25 janvier. Ça veut dire que le début janvier, il faut déjà que j'ai mon plan de travail. Le 10 janvier, faudrait que j'aille terminer ma recherche. Le 15, que j'ai fait mon premier brouillon et que je corrige et je me débrouille pour finir avant le 25 janvier. Alors, combien d'entre vous étaient ce genre d'étudiants? 3 sur les 25, 4 sur les 25. Ben oui, c'est pas le plus habituel des schémas des étudiants. Il y a l'autre type d'étudiant qui attend. On ne peut plus éviter la menace de la faillite et là, on se met debout pendant 3 nuits pour terminer le travail et rendre à temps. Et c'est la menace de ne pas réussir le délai qui fait qu'on est motivé. Alors, qui a fait ça en tant qu'étudiant? Alors, il paraît que c'est plus normal parmi les étudiants.
Comment on explique?
Tu
fais le premier cas.
Oui.
Mais par exemple, pour les comptes, les factures et les machins,
tu fais le deuxième. Alors, parce que c'est contextuel. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de contexte. Chacun a des schémas différents dans des contextes différents. Donc, je donne d'autres exemples. Alors, on ne peut pas dire qu'une personne est vert ou une personne est allée éloigneur. Ce n'est pas dans la nature de la personne, c'est l'interaction entre la personne et la situation. Et on change nos comportements. Mais soyons clairs, lorsqu'on a une motivation vert, c'est l'objectif qui est motivant. Lorsqu'on a une motivation éloigneur, soit on est motivé par les menaces, ou soit on est motivé par le fait qu'on ne va pas avoir ce qu'on veut. Ok? Je donne un autre exemple. Moi, je fixe des objectifs dans mon travail. Pourrais-tu me poser la question, Shirley, pourquoi c'est important pour toi de fixer des objectifs dans ton travail?
Pourquoi c'est important pour toi, Shirley, de fixer des objectifs dans ton travail?
Eh bien, si je n'ai pas d'objectif, je suis complètement désorganisée, je ne sais pas ce que je fais. Alors, c'est quel type de réponse? Et de quoi est-ce que je m'éloigne? De la désorganisation. Donc, ce n'est pas l'objectif qui me motive. C'est ce qui va m'arriver si je n'en ai pas d'objectif. Donc, on n'a pas de jugement de valeur à faire. Si je sais comment je me motive, alors j'ai une force. Alors, si j'ai un objectif et que l'objectif est motivant, tant mieux. Mais si c'est le manque de l'objectif qui me motive, ben alors au moins je le sais. Et tous ceux qui font du coaching, qui font de la thérapie, qu'est-ce qui motive vos clients pour venir vous voir? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un objectif? Je ne crois pas.
Ils souffrent.
Ils souffrent de quelque chose. Imaginez-vous, vous êtes médecin général. Est-ce que quelqu'un vient vous voir pour les objectifs de santé? Je ne crois pas.
Ben dans notre civilisation, non.
Non, on vient parce que j'ai mal à l'estomac, je veux qu'on me fasse quelque chose pour l'enlever. Voyez-vous? Et si vous avez un médecin général qui a plutôt un schéma vert dans son travail, il est malheureux parce qu'on ne vient pas avec les objectifs, on vient qu'avec les problèmes. Il faut aimer et résoudre des problèmes dans ces cas-là. Si vous êtes psychothérapeute, vous avez intérêt à aimer des problèmes. Écoutez mon langage. Sinon, vous n'allez pas être content dans votre travail, c'est sûr. Alors, on a pris la PNL et donc, lorsqu'on se met sur son compte en tant que psychothérapeute, on a pris la pensée positive, n'est-ce pas? Et donc, toutes ces publicités, on va vous aider dans votre recherche de ceci, de cela, de votre développement, votre estime de soi, etc. Alors que le langage qui appelle les gens qui ont besoin d'un coach, c'est un langage éloigneur.
Ah, ça, c'est important.
C'est le langage éloigné. On va regarder ça.
C'est important pour les perspectives.
Oui, oui. Ah, je vous donne un exemple avant. Vous connaissez Nelson Mandela, c'est l'ancien président de l'Afrique du Sud. Voici, j'ai pris une partie de son discours, alors c'est très ancien maintenant, ça remonte dans les temps, de quand il est devenu président d'Afrique du Sud, j'ai pris une partie de son discours. Moi, j'écoute tout le temps les discours politiques parce que c'est très intéressant. Alors, il a dit, allez, l'engagement de mon gouvernement à bâtir une société de liberté centrée sur la personne nous lie à poursuivre des objectifs de... Alors, jusqu'à là, c'est quoi? Et il va vers, c'est ça? Poursuivre des objectifs. Les objectifs de libération de la faim, libération des privations, libération de l'ignorance, libération des assassinats et libération de la peur. Vous pouvez maintenant écouter des personnages politiques avec un autre œil. Est-ce qu'ils proposent une direction où on va vers quelque chose ou est-ce qu'ils s'éloignent de quelque chose? Et vous pouvez commencer à prédire qui va soutenir ces idées-là, juste en assortissant sur l'aller vers ou l'éloignement.
Les motifs de manifestation aussi.
Alors, je dois dire que ça m'a frappé. Je débarque en France il y a 2 jours et je vois il y a encore les manifs tous les jours. Alors, je dis, vous avez vraiment beaucoup d'énergie ici à manifester. Hein. Nous, au Canada, on manif. Bon, il faut vraiment que ça soit une urgence d'ordre national pour que même on se lève la main. Hein. Nous, on est un peu tranquille. Et même lorsqu'on a eu une révolution au Québec, on l'a appelée la révolution tranquille. Il n'y avait pas des gens dans la rue. On disait, si ça vous dérange pas. Ça, c'est plutôt style canadien, tu vois. Alors, si on dérange personne, surtout, voilà. Alors, ça, c'est une autre citation que j'ai eue il y a 2 semaines de Bob Dylan. En anglais, I can't remember who I came here to get away from. Je ne me rappelle pas de qui je voulais m'éloigner en venant ici. C'est éloigneur, n'est-ce pas? Il y a des cultures à aller vers et des cultures éloigneurs aussi. C'est les cultures qui fonctionnent par objectif et même les cultures d'entreprise. Par exemple, souvent, lorsqu'on va pondre un projet de 5 ans, par exemple, les cadres dirigeants vont avoir une optique aller vers. Alors que souvent, les syndicats veulent empêcher que tel ou tel désastre arrive pour les membres. Donc, ils s'éloignent de quelque chose et lorsqu'ils vont négocier ensemble, ils utilisent une direction croisée dans le langage. Et d'ailleurs, dans les équipes de travail, on parle d'équipe de travail. Lorsque vous avez des gens qui ont au travail qui ont préférence pour aller vers, mais ils n'aiment pas les gens qui s'éloignent. Tu sais ce qu'ils disent? Ils disent, mais ils sont négatifs, ils sont cyniques. Et je leur demande pourquoi. Et la réponse, c'est qu'ils pensent uniquement à ce qui peut aller mal. Alors, les gens qui s'éloignent n'aiment pas les gens qui vont vers. Ils disent, mais ils sont naïfs. Et là, tu te demandes pourquoi tu penses qu'ils sont naïfs, mais ils ne pensent jamais à ce qui peut aller mal. Ils sont naïfs. Alors, dans les couples, il y a souvent une personne qui dit « Pourquoi on fait ça? Ce serait une bonne idée. » L'autre qui dit « Attention. » Donc, on voit les croisements dans les couples. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, alors, tu vas voir ça dans les couples. Et vous savez qui vous êtes, n'est-ce pas? De quel côté de la ligne? Et donc, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est des directions de mouvement. Et c'est le déclencheur de motivation. Est-ce que vous êtes motivé par l'objectif ou est-ce que c'est de ne pas avoir l'objectif qui est le facteur motivant? Il vaut mieux le savoir, n'est-ce pas? Alors, parce qu'on va assortir le langage à ça. Quand tu as quelqu'un qui va vers, on parle des bénéfices. On parle de l'objectif atteint. Alors, par exemple, si vous allez étudier le profil lab, ça va vous permettre de facilement comprendre les gens et de savoir exactement ce qu'il faut dire. Vous voyez, c'est le bénéfice d'apprendre ça. Mais si je vais parler, par contre, en s'éloignant, je vais dire, mais écoute, de toute façon, une fois que tu as appris le lab profile, tu ne feras plus les mêmes gaffes qu'avant. Tu auras moins de problèmes à communiquer. Et tu n'auras pas à réfléchir pendant une demi-heure de temps à chaque fois que tu veux ouvrir la bouche. Donc, tu t'éloignes de quelque chose. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as un groupe de personnes?
On utilise
les deux. Et moi, j'appelle ça parler des deux côtés de la bouche. Attention, démonstration, alerte, démonstration. Parce que tu veux pouvoir inclure tout le monde. Et tu veux surtout pas que les gens se sont largués. Et ce qui est intéressant, qu'est-ce qui anime des réunions de temps en temps? Ok. Ça, c'est une expérience qui vaut la peine de faire. C'est que tu dis une chose à l'envers et tu regardes tous les gens qui hochent la tête. Et les autres sont partis. Tu peux cogner, mais ils ne sont plus à la maison. Ensuite, tu répètes exactement la même chose avec un langage éloigné et ceux qui étaient là partent, quittent la maison et les autres rentrent et ils hochent la tête. Ne me croyez pas, c'est une expérience qui vaut la peine, je crois, à le faire vous-même. Parce que quand tu utilises le langage juste, les gens disent « oui, c'est bien ça ». Et si tu ne tapes pas sur les mots ou la façon de faire, il y en a d'autres qui vont dire « wow, c'est pas pour moi ». Alors tout le monde se garde la tête pour ne pas lâcher parce que vous me faites des signes au-delà de votre conscience, mais moi je les vois. Comme on dit en bon québécois, je te « watch ». Vous guette. Eh bien, y a-t-il quelques questions? Commentaire, oui. Fabien.
Je comprends la séparation, les verts s'éloigner d'eux.
C'est un peu dur.
Je comprends pas comment être je comprends comment être motivé par l'atteinte d'un objectif, mais je comprends pas comment on peut être motivé par le fait de ne pas en avoir.
Moi aussi.
J'aimerais vous donner un exemple alors. Ça vous aidera. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se motiver en éloignant? C'est ça la question?
Pas en s'éloignant, ça je comprends, mais comment le fait de ne pas avoir d'objectif peut
être motivé?
OK, j'ai compris la question, je pense. Tu sais, depuis les années 50 avec Napoleon Hill, on sait qu'avec le pouvoir de la pensée positive, qu'on est plus efficace lorsqu'on a objectif. C'est vrai ça. Mais la question, c'est pas sur l'objectif, c'est qu'est-ce qui va motiver une personne à prendre un objectif. Donc, par exemple, tes clients vont rentrer, ils ont besoin d'un conseil ou d'un coaching ou d'une thérapie, et ils sont dans l'éloignement. Tu dis, alors tu commences avec la stratégie, l'objectif pour essayer de dégager ce que veut la personne et tu poses la question, alors que veux-tu dans cette situation? Je ne veux plus qu'il me parle comme ça. Alors tu dis, mais qu'est-ce que tu veux à la place? Mais je ne veux plus tolérer ce genre de situation. Et tu dis, ok, d'accord, qu'est-ce que tu veux au lieu... Tu passes ton temps à tourner en rond. Ça vous est déjà arrivé?
Oui.
Cette personne-là, tant que tu ne reconnais pas qu'elle a besoin de s'éloigner avant de s'approcher, elle n'ira pas avec vous. Vous pouvez l'obliger à avoir un objectif, mais en fait, vous êtes en train de cogner sur une porte fermée. Ce ne serait pas plus facile de cogner sa porte qui va s'ouvrir en disant, par exemple, en utilisant le langage qu'elle vient de sortir de s'éloigner, étant donné que tu ne peux plus tolérer ceci, on attend qu'elle hoche la tête. Et ouais. Que tu ne peux plus avoir qu'il vous parle sur ce ton ou comme ça, et tu en rajoutes, que veux-tu à la place? Alors, récemment, j'ai inventé ce que j'appelle le éloigné vers sandwich. Étant donné, c'est presque l'heure d'aller manger, c'est peut-être approprié. Vous voulez savoir ce que c'est le sandwich?
Oui.
L'idée, c'est comment motiver quelqu'un qui s'éloigne parce qu'elle a un problème qu'elle veut résoudre. Elle veut s'éloigner son problème, avoir un objectif. Et c'est par le sandwich. Donc, tu commences avec langage éloigneur, parce que la question, c'est comment motiver la personne. Tu commences avec langage éloigneur, la viande de la sandwich, c'est langage vert, et l'autre morceau de pain, bien sûr, c'est langage éloigneur. Ça, je viens d'inventer ça dans une téléclasse sur le coaching il y a 2 semaines. Donc, c'est tout nouveau. Et donc, par exemple, puisque... tu en as marre de te faire traiter comme ça et que tu ne veux plus tolérer ça, ce serait bien d'avoir un objectif de ce que tu veux à la place, sinon ça va continuer comme ça et c'est clair que tu ne veux pas ça. Vous voyez, j'ai éloigné, aller vers, éloigné. Et c'est pas motivant ça à ce moment-là de prendre un objectif? Donc l'idée c'était comment motiver quelqu'un à vouloir prendre un objectif.
Est-ce que c'est possible qu'une personne ait les deux, mais elle en utilise un, c'est-à-dire s'éloigner, pour le déclencheur de l'action? Pour la motivation, c'est-à-dire quand elle est dans l'action, c'est plutôt aller vers.
C'est très futé ce que tu dis, parce que dans mon expérience, il y a plusieurs choses qui arrivent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un objectif à long terme et de perdre la motivation en cours de route? Perdre du poids, arrêter de fumer, augmenter son fitness, des objectifs de santé surtout, sur longue haleine. Et là, je vous fais part de mon expérience, je ne sais pas si c'est ça qui vous passe à vous, mais c'est un peu ça. C'est que, mettons par exemple, on décide de perdre du poids. Normalement, le déclencheur de ça, c'est quoi?
Les vêtements.
les vêtements, par exemple, et est-ce que...
C'est éloigné.
C'est la glace. Alors, Shelley se regarde dans la glace, elle dit, wow! Ça peut plus continuer comme ça. Et donc, elle se met au régime.
Ouais.
Et bon, elle perd un kilo, elle perd peut-être un kilo et demi, et tout d'un coup, elle trouve des desserts très attirants. Et son niveau de motivation retombe. Je ne suis pas la seule hein, dans cette situation. Je vérifie là. Ok. Ah oui, je suis la seule, c'est sûr. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai eu cet exemple d'un formateur psychothérapeute en PNL qui travaille en Pennsylvanie. C'est John Overdorf qui m'a donné cet exemple. Il a eu un client dans son cabinet de psychothérapie qui avait un grand problème. Il a débarqué, il a dit, écoute, j'ai un énorme problème. J'ai été millionnaire 4 fois. Bon, à première vue, on dit, et c'est quoi le problème? Mais réfléchissons un peu, s'il a été millionnaire 4 fois, qu'est-ce que s'est passé? Il a tout perdu au moins 3 fois. Et donc, en lui parlant, on a trouvé qu'il avait un schéma d'éloignement. Et ce qu'il voulait à tout prix éviter, c'est la pauvreté. Je veux à tout prix éviter la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il commence à travailler sur un projet, un business quelconque. Eh bien, il est très motivé au début. Et ça se perd en cours de route. Mais regardons exactement ce qui se passe. Ici, il a 0 $, pas un sou. Et sur on appelle ça l'axe X, c'est ça en français? Ça, c'est l'abscisse?
Oui.
OK. Et là, ici, à la droite, il a 1 000 000 $. Et pour sur le vertical, en bas, il est très peu motivé et en haut, il est très motivé. Donc, sur le vertical, c'est le niveau de motivation. Sur l'horizontal, c'est le fric qu'il a. Quand il n'a pas un rond, quel est son niveau de motivation? Très haut. OK. Donc, comme moi, il m'a régime, il rentre des sous. Et qu'est-ce qui se passe à son niveau de motivation au fur et à mesure qu'il rend des dollars?
Ça retourne.
S'il ne fait aucun effort, ça descend complètement comme ça. S'il ne fait aucun effort, alors que fait-il pour maintenir sa motivation? Et là maintenant, ça fait plusieurs années que je travaille sur la question des objectifs à long terme. Et j'en suis arrivée à la conclusion que c'est jamais une question de compétence. Parce que s'il s'agissait uniquement de la compétence, tu vas apprendre ce que tu as besoin d'apprendre pour le faire. Et que c'est normalement des buts à long échéance, c'est une question de maintenir la motivation. D'abord, engager la motivation et deuxièmement, la maintenir. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord?
Oui.
Alors, souvent le déclencheur d'un changement est de prendre conscience de quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, en tant que déclencheur. Pas tout le temps, mais parfois. Et si vous regardez bien dans vos vies, vous allez voir que c'est souvent le cas. Quelque chose qui arrive et vous ne voulez plus de quelque chose et ça déclenche une motivation. Mais ce n'est pas suffisant pour le maintenir. Et donc, si, mettons par exemple, j'ai une motivation pour perdre du poids, plus que je m'éloigne du problème, moins j'ai de motivation. Si je ne la remplace pas avec quelque chose qui va m'attirer. Donc, je veux me servir de 2 types de motivation. Une force magnétique qui me repousse et une force magnétique qui m'attire. Et comme je vous avais dit, j'ai des collègues qui font la recherche de marché. Et je ne sais pas si vous avez les patchs Nicoderm ici pour arrêter de fumer. Elle a fait la recherche derrière ça. Ils ont écrit toutes les publicités d'après les recherches en lab pour faire. Et là, je pourrais en parler maintenant parce que c'est quand même dans l'ordre de la connaissance publique. Et qu'ils ont trouvé que si la personne a au niveau visuel ce qu'elle ne veut pas ou ce qu'elle veut, au niveau visuel, elle va pouvoir arrêter de fumer. Si elle fait ça dans le dialogue interne auditif, c'est pas suffisamment puissant pour arrêter de fumer. Mais que dans ce qu'il faisait avec l'arrêt de fumer, si elle avait une image, aller vers ou s'éloigner, c'était pas un problème. Et donc c'est la même chose ici en résumé. Si tu veux... Et si tu crois que le niveau de motivation ne se maintient pas, elle baisse, tu rajoutes soit de l'aller vers pour que je ne veux pas être pauvre, je veux avoir suffisamment pour faire ma retraite. Donc tu as les 2 types de motivation. L'autre option, bien sûr parce qu'il y a toujours des options, c'est de continuer à se rappeler pourquoi on fait ça. Pourquoi je fais tout cet effort? Parce que je ne veux pas être pauvre, parce que je ne veux pas ça. Et là, tu peux remonter aussi. Donc, il y a deux options. Soit tu mets les deux en place, et visuel, c'est plus fort que l'auditif, peu importe la préférence de la personne, donc en image, et ça aide à maintenir la motivation sur le long terme, sur la durée.
Tu as dit vraiment se rappeler, ne pas oublier qu'on veut s'éloigner d'eux, c'est ça?
Oui, tu n'oublies pas ce que tu ne veux pas et tu remets en tête ce que tu veux à la place.
D'accord, donc si j'ai bien. Pardon. Ça, donc, parce que tu as parlé de deux possibilités. Tu as dit une.
Et l'autre, c'est que je continue à me rappeler de ce que je ne veux pas. Je peux aussi repiquer ça toutes les semaines, par exemple.
Tu fais comment par le.
Par le visuel, c'est plus fort.
Alors, le fait de mettre le patch, c'est simplement.
Disons.
C'est beau? Le fait de mettre
Non, il faut avoir une stratégie mentale de visualisation pour que ça marche.
Tu n'oublies pas ce que tu veux et tu.
Tu n'oublies pas, c'est une structure d'éloignement. Oui. Donc, tu as mieux de dire tu te rappelles ce que tu veux et tu n'oublies pas ce que tu ne veux pas. Voyez-vous? Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Attention, alerte, démonstration. Il est très important de bien se nourrir, n'est-ce pas, pour qu'on se sente bien à son aise, pour qu'on puisse concentrer sur les choses qu'on a à apprendre, n'est-ce pas? Et surtout, il ne faut pas avoir faim, parce que si on a un creux dans le ventre et qu'on ne se sent pas bien, on ne va pas pouvoir se concentrer sur les choses qu'on a à faire. Alors, c'est l'heure d'aller déjeuner. Merci.
Tu parlais de visuel, est-ce que le fait que...
Voilà, alors nous allons commencer cet après-midi. J'espère que ça n'a pas été désagréable à manger et qu'en fait vous avez pris plaisir à manger ce que vous avez mangé.
Oui.
En tout cas, c'était pas trop mal.
C'était très bien.
Oui. C'était plutôt bien. Alors maintenant, je vous invite à commencer à écouter les démonstrations un peu cachées des différents types de langage. Déjà, on a passé ce matin, on a vu critères, c'est les points sensibles attachés des émotions manifestées par les phrases et des mots. Et là, on a vu l'orientation ou la direction de mouvement, aller vers un objectif ou s'éloigner de quelque chose qu'on ne veut pas. Et depuis ce moment, vous allez pouvoir entendre les exemples de où on parle de bénéfices et d'avantages de quelque chose et le fait qu'on veut bien sûr éviter des conséquences négatives de faire autre chose. Et maintenant, vous avez les oreilles pour entendre. On va passer à une autre catégorie de schéma maintenant où il s'agit de savoir convaincre les gens difficiles à convaincre. Je ne sais pas si ça vous touche de temps en temps ou si vous avez ce défi. Et de savoir les différents types de prise de décision et comment travailler avec. Alors ici, là aussi, on a une question-réponse, mais je vous donne les bonnes nouvelles. C'est qu'il faut poser la question uniquement une fois. Vous n'avez pas à torturer votre compagnon d'exercice. Vous n'avez qu'à la poser une fois et écrire la réponse. Donc, je vous montre la question. La voici. Comment savez-vous que vous avez fait du bon travail dans ton travail, dans votre travail? Comment savez-vous que vous avez fait du bon travail? Alors, choisissez un partenaire. Posez-lui la question à propos de son travail et écrivez sa réponse. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice?
Non, sur l'écran.
Sur l'écran. Sur le manque d'écran. Ok, merci.
Sur l'absence
d'écran. Mais la question, c'est comment savez-vous que vous avez fait du bon travail? C'est drôle, il y a des choses qui passent derrière moi et je ne les vois pas. Alors, comment ça se fait? Bon, passons au travail.
C'est trop vert.
C'est l'exercice qu'on va le faire?
Oui. Alors, vous venez de poser la question, comment savez-vous, comment sais-tu que tu as fait du bon travail? Alors, j'ai envie de poser la question à toi, Fabien. Comment sais-tu, par exemple, que tu as fait du bon travail? Sans le lire, parce que comment sais-tu?
Non, c'est par rapport à la réalisation d'un programme qu'on avait prévu, qu'on avait mis au point au début, quoi.
Comment sais-tu que ça a été, il y a eu une réalisation
C'est-à-dire qu'on a collé, pas collé, mais parce que c'est jamais vraiment possible, mais qu'en tout cas on a atteint les objectifs atteints avec le prévisionnel d'action qu'on avait mis en place.
Donc tu sais si tu as fait du bon travail, ouais. Si tu as atteint les objectifs que tu avais mis en place.
C'est à la fois réalisation de l'objectif et en même temps dans les conditions prévues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de choses perturbatrices, quoi. L'élément perturbateur trop important, on va dire.
D'accord.
D'accord.
Sinon, après, ça serait peut-être trop de la chance aussi. De...
Ah bon? Et on sait ce que tu fais n'a rien de la chance, non, n'est-ce pas? Non. Ok. Mon travail non plus, il n'y a pas de chance là-dedans. Et comment t'appelles-tu encore? C'est...
Armel.
Armel. Comment sais-tu, par exemple, dans tes études, que tu as fait du bon travail?
Ben justement, c'est ce qu'on a dit avec Véronique, c'est que moi j'ai un petit souci là-dessus, c'est que j'ai passé ma soutenance l'année dernière, et pendant les deux ans que j'avais eu mon directeur de mémoire, j'avais eu aucun reproche en fait sur l'écrit de mon mémoire.
Donc il n'y avait aucun reproche, ok.
Voilà, donc à la limite j'étais contente de l'écriture.
Ok. Là, je fais un commentaire. Là, on entend un peu d'éloignement. Là, il n'y a pas de reproche. Parfois, il y a des gens qui me disent quand personne ne se plaint. Comment sais-tu que tu as fait du bon travail, mais il n'y a pas de plainte. Alors, c'est un peu ça. Il n'y a pas eu de reproche. Ok.
Et donc, le jour de la soutenance, malheureusement pour moi, j'en ai eu beaucoup.
Ok. Donc, tu as eu des reproches dans le jour de la soutenance. Ok.
Donc, je ne peux pas trop dire comment je sais qu'on travaillait bien ou pas, parce que je n'ai pas le résultat obtenu. Donc,
Ok, merci. Alors, je cherche quelqu'un. Non, on va rester là pour l'instant. On a eu deux types de réponses différentes, avec Armel et avec Fabien. C'était quoi la différence entre les types de réponses?
Externe ou interne?
Ouais. Externe à quoi?
Bah, externe à nous, enfin, l'autre et nous.
C'est juste parce que, en dépit du fait qu'on a posé la question « Comment sais-tu ?», on s'en fiche « Comment sais-tu ?». Ce qu'on veut savoir, c'est « Où tu sais ?» À quel endroit est-ce que la décision elle est prise? Et ça, c'est dans la page 13 du document. Et bien sûr, il y a deux endroits. Est-ce que la personne prend elle-même les décisions suivant les normes et les standards qu'elle tient à l'intérieur d'elle-même, ou est-ce que les standards sont viennent de l'extérieur? Et le nom de ces deux schémas-là, c'est interne et externe. Donc, est-ce que la personne a fait des jugements à partir des sources externes ou à partir des normes internes? J'aimerais faire une démonstration physique parce que ça se passe physiquement différemment. Et là encore, je vous rappelle, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de contexte. Il y aura des contextes dans lesquels vous avez plutôt des jugements internes et d'autres où il y a des jugements externes qui sont les facteurs motivants. Quelqu'un qui a un schéma dans un contexte donné de plutôt interne, elle fait la chose suivante. Elle va faire quelque chose, elle va se rendre compte des données venant de l'extérieur, mais ce n'est pas les données qui jugent, c'est son jugement sur les données. Donc, elle va prendre ces informations-là, elle va les rentrer dans son système corporel, intellectuel, émotionnel, etc. Et elle va les juger contre les normes qu'elle tient quelque part dans son corps. Alors, quand tu dis, par exemple, si on a comblé nos objectifs, si on est rentré sans trop de perturbations, ce sont tes normes à toi, tes critères à toi. Tu ramasses des informations et tu les juges en utilisant tes normes, tes standards, tes critères. Par contre, quand quelqu'un a un schéma plutôt externe, c'est les standards viennent de l'extérieur, les normes viennent de l'extérieur. On a besoin du feedback pour savoir. Question.
Dans l'exercice que j'ai fait avec Tamar, d'emblée, quand j'étais sujet, j'ai dit il y a deux possibilités. Si c'est vis-à-vis des personnes ou si c'est vis-à-vis de moi-même.
Ok, je t'arrête là. Tu as dit possibilité, si ceci, si cela. Tu es en train de nous indiquer qu'il y a deux contextes pour toi. Quand quelqu'un te répond ça dépend, il est en train d'indiquer que pour lui, dans sa tête, il y a deux contextes qui sont différents l'un de l'autre. À ce moment-là, on va écouter la réponse pour les deux, sachant que dans sa tête à lui, il y a plus d'un contexte. Ok, je continue. Donc, j'aimerais expliquer, après je vais prendre les décisions, les questions. Interne, et là encore, j'aimerais vous dire que lorsqu'on parle d'un contexte aussi large que le travail, c'est pas un contexte étroit, comme quand tu te brosses les dents, comment sais-tu que tu as fait du bon travail. Ok, c'est quand même un contexte étroit. Un contexte large comme le travail où tu es au téléphone, tu es tout seul, tu es en équipe, tu fais la vente, tu fais les entretiens, etc. Il y a beaucoup d'activités différentes. tu vas sûrement avoir un genre de mélange de schémas. Donc ce serait plutôt interne avec un peu d'externe, plutôt interne avec un peu d'externe ou au milieu, mais quelque part sur une échelle comme ça. Lorsqu'on fait la recherche en marketing, on essaie de trouver des contextes très étroits, parce que là on peut avoir des réponses beaucoup plus définitives de type tout externe, tout interne. Et c'est comme si c'est sur une échelle. Lorsqu'il y a deux schémas, il y a externe et interne. Bon, mettons le 50-50 au milieu, on veut savoir à peu près où elle se trouve. Il y a très peu de personnes dans un contexte large comme le travail qui seront 100% internes ou 100% externes. OK? Donc, vous allez entendre un mélange de réponses. OK? Quelqu'un qui a un schéma interne, elle recueille de l'information et le juge basé sur ses propres critères. Et elle va dire, je sais. Elle indique que quelque part au fond d'elle, c'est elle qui décide. Quelqu'un qui a un schéma plutôt externe va justement attendre qu'on lui montre ou qu'on lui dise si elle a fait du bon travail. Parfois, les vendeurs font ça par les chiffres, parce que c'est la manière habituelle qu'ils sont évalués. C'est le chiffre d'affaires en fin de mois qui leur dit. Okay? Et ils savent à partir de la rétroaction. Et sur la page 14, là, j'aimerais vous montrer comment dépouiller les réponses. La question, c'est comment savez-vous que vous avez fait du bon travail? Chaque fois que la personne indique qu'elle a les critères elle-même et qu'elle le sait elle-même, vous marquez un « i » pour interne. À chaque fois qu'elle attend de la rétroaction ou un feedback en chiffres, etc., vous marquez « e » pour externe. Alors, nuance. Parce que ça semble assez clair entre l'externe et l'interne, mais en nuance quand même, j'aimerais vous prévenir à l'avance pour que vous n'ayez pas ce problème et que ça soit plus facile. Vous voyez là, tout le monde est motivé? OK. Et c'est que parfois, ça semble être externe alors que c'est interne. Démonstration. Mettons, vous parlez à une maîtresse d'école et tu lui demandes « Comment sais-tu que tu as fait du bon travail avec tes élèves? » Et là, la maîtresse d'école répond « Quand je vois que les élèves comprennent. » C'est interne ou externe?
Non, c'est interne. Il y a
Qui est-ce qui décide que les enfants l'ont compris? Quand je vois que les enfants ont compris. Donc, qui est acteur là-dedans?
C'est elle.
Alors, si elle répond « Quand les élèves réussissent les examens »,
ça c'est externe.
Même si c'est elle qui corrige les examens, c'est les examens qui lui montrent à elle le type de travail. Donc, est-ce que ça clarifie un peu? Donc, avec votre partenaire, dépouillez un peu pour savoir si c'est majoritairement interne ou majoritairement interne, externe et au milieu, avec votre partenaire. Prenez 5 minutes.